Europe 1. Europe Soir Weekend.
Céline Géraud.
Et bienvenue à bord, ravi de vous accompagner pour ce nouveau numéro d'Europe Soir Weekend. On est ensemble jusqu'à 20h. Alors au sommaire ce soir, les cérémonies de commémoration du 8 mai 45, présidées par Emmanuel Macron, tout juste investi pour un second mandat. Ce dimanche 8 mai marque aussi la première sortie publique depuis le deuxième tour des présidentielles de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. La campagne du Rassemblement National est lancée, mais avec quelle ambition? On en parle. Et puis, il était ce matin dans le grand rendez-vous, Europe 1, CNews, Les Échos. Manuel Valls est candidat pour la majorité présidentielle dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Et son ennemi, c'est le mélenchonisme. Et pour échanger, débattre, analyser avec tous ces sujets, dans le studio, Jeannette Bougrab, essayiste. Bonsoir Jeannette.
Bonsoir.
Merci d'être là. Patrick Karam, vice-président LR, région Île-de-France.
Bonsoir.
Philippe Doucet, porte-parole du PS, membre du Conseil national.
Bonsoir.
Bonsoir. Frédéric Dabi, directeur général Opinion IFOP.
Bonsoir.
Eh bien voilà, c'est parti. On va ouvrir évidemment cette émission avec le chef de l'État qui a donc présidé ce matin le 77e anniversaire de cette victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie. C'était sur les Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe. Et c'était la première fois depuis 2019 que le public était autorisé pour cette cérémonie après deux années de restrictions à cause de l'épidémie de Covid-19. Votre sentiment sur cette cérémonie, Philippe Doucet, marqué par une forme de gravité liée évidemment au contexte?
Bah, écoutez, en venant ici à Europe 1, je regardais le discours, un extrait du discours traduit du président Zelensky à propos du 8 mai. Et effectivement, habituellement, on fait un 8 mai en devoir de mémoire, on va dire, pour souvenir. Bon, là, quand on a une guerre à 1200 km de Strasbourg, ça change un peu l'ambiance, quoi, hein. Donc,
forcément.
On voit bien que on a un retour de la guerre dans notre réalité politique, économique. C'est quand même un fait nouveau depuis très longtemps. Mm-hmm. Alors, c'est vrai qu'on avait eu, pour être honnête, dans l'ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, on avait eu ces dimensions-là. D'ailleurs, ça avait marqué François Hollande et la période des septennats de François Hollande.
Avec François Mitterrand.
François Mitterrand, pardon.
Oui.
Merci Frédéric. Un peu traumatisé.
Les
socialistes traumatisés. mais effectivement, merci de me corriger. Donc François Mitterrand, effectivement, à Sarajevo,
oui.
Et ça. Donc bon, il y avait cette dimension-là, mais on l'a à nouveau aussi aujourd'hui avec quelque chose de puissant, parce que là, on a la Russie qui attaque directement. Donc c'est normal qu'il y ait de la gravité. C'est une année différente.
Jeannette Bougrab, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vécu hier avec la cérémonie d'investiture.
La
sobriété, de la gravité,
oui,
voilà.
Ce que je ne veux pas, c'est qu'on réécrive l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ce qui est assez difficile dans cet exercice-là, c'est qu'il ne faut pas oublier les millions de morts de soviétiques qui ont permis aussi, il n'y a pas que
ouais,
les Américains,
on le rappelle, oui.
Plus de 20 millions de personnes qui sont mortes. Et donc la mémoire de ces soldats morts et de leurs familles, on ne doit pas les oublier. Et je pense que ça, c'est l'exercice très difficile, la ligne de crête. D'autant que vous parliez de la... Et je vous dis, c'est très difficile parce qu'alors même qu'une école a été bombardée, qu'une soixantaine de personnes et d'enfants sont peut-être disparus, c'est difficile de parler du rôle de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était du côté nazi. C'était pas du côté. Donc, et quand on voit la vidéo en réalité du président, il faut pas réécrire l'histoire. L'histoire, elle est ainsi. Par contre, éviter qu'elle se reproduise, oui. Et donc, c'est ça qui est difficile. Mais la France avait déjà fait au moment de la guerre de Crimée, c'est-à-dire de ne pas convier en réalité, je ne dis pas qu'il fallait les convier, hein, là je n'ai pas du tout dit ça, mais il faut rendre hommage à ceux qui sont morts pour la liberté.
D'ailleurs, effectivement, il y a la cérémonie du 9 mai, demain on en parlera à la fin de ce Europe Soir Weekend avec ce discours attendu de Vladimir Poutine. Votre
oui,
sentiment, Frédéric Dabi?
Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jeannette Bougrab, que je trouve extrêmement pertinent. Bien sûr, oui, l'histoire est tragique et les Français le voient. Le niveau d'inquiétude sur cette guerre en Ukraine est très élevé. Le niveau d'intérêt est également très soutenu. On n'est plus dans... parce que ça se passe au cœur de l'Europe, hein, 1200 km de Strasbourg. On n'est plus dans ce passé où les questions internationales n'intéressaient pas. Mais par rapport à ce qu'a dit Jeannette Bougrab, l'IFOP a la chance d'être le plus ancien institut de français. Et on a vu personnellement une forme de réécriture de l'histoire.
C'est-à-dire
août 44, premier sondage dans Paris libéré. L'IFOP fait un sondage, alors qu'il y a encore des tirs des échauffourées dans les rues de notre capitale. Et on pose une question qu'on a posée tous les 10 ans. Quelle est la nation qui a le plus contribué à la chute du nazisme? Alors, en août 44, c'était à la probable défaite du nazisme. C'était l'URSS qui sortait de manière massive. Et en 84, pour les 40 ans du débarquement, un sondage IFOP, JDD, Europe 1, USA Today, et je crois CNN, si je ne me trompe pas, c'était un sondage franco-américain, et ben, les Français avaient dit assez massivement, ce sont les Américains qui ont libéré, qui ont le plus contribué à la défaite du nazisme. Je ne vais pas faire un débat d'historien. Ce matin, il y avait un formidable historien sur la trentaine, Jean Lopez, avec Frédéric Taddeï. C'est vraiment peut-être le meilleur historien sur les questions germano-soviétiques. Et c'est vrai que l'histoire bouge et il faut rappeler ce sacrifice des soldats et du peuple, des peuples de la Russie soviétique et des peuples qui n'étaient pas seulement russes. Hein. Quelques jours, quelques heures après le 6 juin 1944, il y a l'opération Bagration à l'Est qui fait encore plus de victimes que tous les soldats américains et anglais réunis pendant les trois mois de juin à septembre 1944.
Patrick Karam, vice-président régional de France, que retenez-vous de cette commémoration anniversaire aujourd'hui?
Quoi que ça s'est passé sous l'angle dramatique de la guerre à nos portes, c'est le problème, c'est que nous avons oublié que l'histoire est violente, que l'histoire a toujours recelé, c'est l'histoire de l'humanité, sa part de guerre. C'est vrai qu'en Europe, on s'était cru à l'abri de tout, on s'est dit on va faire la construction européenne, ça va nous écarter de la guerre. Enfin, on a quand même eu une guerre sur le continent, et cette fois-ci, c'était l'OTAN qui bombardait les Serbes. Pas oublié, moi j'étais en Serbie quand ça s'est passé, j'ai vu le drapeau noir qui était sur le monument qui symbolisait l'amitié entre la France et la Serbie. Il y a eu cette guerre lors de la scission de la grande Yougoslavie. Le sujet, si vous voulez, c'est que l'Europe avait réussi ensuite, contre l'adhésion à l'Union européenne, à neutraliser, parce qu'il y aurait pu y avoir d'autres guerres, hein. Il y a les minorités hongroises en Europe, qu'elles soient en Roumanie, qu'elles soient en Serbie ou ailleurs, c'est un vecteur de déstabilisation. Ça a été l'intégration dans l'Union européenne contre la paix. Voilà. Et ça a marché. Sauf que cette guerre, on la voyait dans le monde entier. Pardon de vous le dire, j'ai sillonné le monde. Pendant toute cette période, il y a 30 ans, 40 ans, j'ai sillonné le monde, j'ai vu les guerres du Caucase, j'ai d'ailleurs écrit les guerres du Caucase, j'ai vu ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais on a une redite de ce qui s'est passé il y a 30 ans, avec des bombardements de Stepanakert et les Azéris aidés aujourd'hui par les Turcs qui prennent ce territoire-là, j'allais dire, en otage. Je vois ce qui se passe en Orient. Pardon de vous le dire, mais nous sommes aussi engagés en Orient. Oui. Nous ne sommes peut-être pas en guerre ici, mais nos soldats sont engagés aux quatre coins du monde. Ils sont engagés en Orient, ils étaient engagés dans la force Finul au Liban. Ils se sont engagés en Syrie contre Daesh. En fait, on n'a jamais cessé d'être en guerre. Simplement, cette guerre aujourd'hui nous touche, et puis c'est la première fois qu'une puissance nucléaire...
Cette guerre
aujourd'hui, c'est la première fois qu'on affronte
cette guerre. Enfin, ce que je pense, ce qui est important, parce que en ce moment, avec la situation en Israël, c'est la question de la Shoah, de plans d'extermination. C'est les procès de Nuremberg. C'est la découverte de ce qu'on a refusé de voir, alors qu'on connaissait on connaissait les camps déjà depuis 2-3 ans en 43, c'est-à-dire des camps de la mort. C'est quasiment inédit dans l'histoire. Donc, vous savez, la fondation de la Shoah met souvent des photos, vous savez, de petits enfants qui sont partis dans ces camps et qui ne reviendront pas. Donc, c'est aussi ça, la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'on commémore, c'est aussi cette horreur pour ne plus jamais... En fait, on commémore, en réalité, tous ceux qui ne sont jamais revenus.
Non, mais Jeannette Bogram, moi, je veux vous dire, mon sujet, c'est que j'ai l'impression que l'Europe, finalement, s'est enlisée dans les délices de Capou. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Europe se trouve... Les Européens se sont sentis à l'abri de toute menace. Et moi, je ne suis pas certain que la résistance qu'aujourd'hui les Russes affrontent en Ukraine, je ne suis pas du tout certain que cette résistance-là, les Français, si un jour le pays était envahi, si les Français devaient prendre les armes,
faut pas dire
si
ça.
On serait capable nous-mêmes de nous redresser comme ça. C'est-à-dire qu'on a, il y a une sorte
après,
de
défense. Je ne partage pas ça parce que tout le monde, finalement, et c'est bien normal, c'est une bonne chose. tout le monde s'habitue à la paix. Je veux dire, c'est plutôt agréable de vivre en paix. Je veux dire, il suffit de passer une semaine dans un pays en guerre pour se dire on est super bien dans la paix. Et donc, du coup, c'est vrai que l'aspect tragique de l'histoire, les Européens depuis 1945 l'ont oublié, puisque c'est quand même une longue période. Il y a eu la guerre d'Algérie, mais post-guerre d'Algérie, après la décolonisation, on a eu une très longue période de paix, ce qui est plutôt rare dans l'histoire des différents pays européens. Et là, d'un seul coup, à 1200 km, on a à nouveau la guerre, une guerre visible, y compris avec une grande puissance qui est la Russie, y compris avec les mémoires de ce qu'a été l'Union soviétique, etc. Donc, il y a un réveil du tragique de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est en train de bouleverser la mondialisation, les rapports des blocs géopolitiques, etc. Il y a tout ça qui est en train de bouger.
En tout cas, ça ne va pas dans le sens de la construction européenne. Les Américains ont fait une sorte d'OPA sur la défense européenne. Aujourd'hui, America is back. On disait que les Américains étaient...
On disait que les
Américains étaient beaucoup plus tournés vers l'Asie, vers le Pacifique. Aujourd'hui, on s'aperçoit, les Américains se rendent compte qu'il faut bien être présent en Europe. Ils se servent de ça pour affaiblir la Russie, il faut l'avoir en tête. Notre défense européenne aujourd'hui, défense européenne aujourd'hui va battre de l'aile pour une raison simple, c'est que les pays européens sont en train d'acheter de l'armement américain. Les Allemands même, alors qu'on avait un projet d'avion, les Allemands même vont acheter les avions américains. Pardon, mais laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas être naïf.
La
difficulté sur ça, c'est que sur cette question de la construction de la défense européenne, on en est loin. Mais derrière, effectivement, mais aujourd'hui, on a quand même un changement systémique. L'Allemagne, qui était y compris contre l'armement tout court, son propre armement, a compris que l'histoire était de retour et tapée à sa porte. D'ailleurs, il y a beaucoup de débats au sein de l'Allemagne aujourd'hui.
On va clouter ce débat avec vous, Jeannette.
Moi, je pense que c'est important de rappeler l'histoire de l'engagement de ces jeunes qui sont allés dans le maquis, sont à 16 ans, se sont engagés, ceux qui sont partis à Londres parce que ça fait partie de l'histoire et de la construction de la citoyenneté. Et moi, j'ai de l'admiration qui pour ceux qui, alors qu'ils avaient 14 ou 15 ans, ou peut-être et parfois 50 ans, je pense à René Cassin,
qui se sont engagés dans la résistance, qui
fait la première rentrée universitaire de Londres. Et ça, c'est important de le dire. Et on parle de Camus en Alger, la revue Combat, tout ça, c'est important.
Et cette commémoration, oui, Frédéric Dabi.
Non, je disais qu'on est dans le 15e arrondissement ici, il ne faut pas y non plus. Les cinq martyrs du lycée Buffon, le Veldiv qui est à quelques mètres d'ici. Non, mais c'est vraiment, quand on interroge les Français, c'est l'événement majeur, c'est l'événement central. L'IFOP avait fait, il y a une vingtaine d'années, une enquête auprès de centenaires pour le journal Ouest-France. Et chez les centenaires de l'époque, l'événement matrice était la Première Guerre mondiale. On a vu après les choses bien sûr bouger.
Alors cette commémoration, sachez-le, ouvre une séquence internationale pour le chef de l'État qui a participé en fin de journée à une visioconférence des membres du G7 relative à cette situation en Ukraine, avant de se rendre demain à Strasbourg pour la journée de l'Europe et dans la foulée à Berlin pour y rencontrer le nouveau chancelier depuis décembre dernier, Olaf Scholz. Deux informations que je vous donne également. Les États-Unis qui resserrent la vis d'un cran. Le G7 s'engage à arrêter les achats de pétrole russe pour commencer. Le G7 tout entier s'engage donc à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe. C'est la Maison-Blanche qui l'annonce aujourd'hui dans un communiqué. Et puis les États-Unis vont aussi, entre autres nouvelles mesures, sanctionner 3 chaînes de télévision russes et priver toutes les entreprises russes d'accès aux services de conseil et de comptabilité qui étaient offerts par les sociétés américaines. Là encore, selon un communiqué publié dimanche par la Maison Blanche. Allez, on reste ensemble.
Est-ce que je peux juste compléter, juste pour dire que l'Arabie Saoudite et l'OPEP, c'était dans le journal Les Échos vendredi, a refusé en réalité d'augmenter la production pour se substituer au pétrole russe. Donc, il faut se dire que ça ne va pas être si facile.
Juste un mot. Il y a une guerre. Oui, la Russie, aujourd'hui, est coupable d'avoir lancé cette guerre. Oui, il faut avoir une position extrêmement ferme. Simplement, pardon à l'observateur que je suis de dire qu'aujourd'hui, ceux qui vont bénéficier de ce recul russe, parce que c'est quand même le deuxième exportateur mondial de pétrole, c'est quand même pas rien. Les autres exportateurs, les pays de l'OPEP, ont déjà dit qu'ils ne vont pas augmenter la production. On a déjà des sujets avec l'Iran, qui est un exportateur de pétrole, mais pour lequel nous avons quelques différends liés au nucléaire. Nous avons des sujets liés à la reprise de Caracas, enfin du Venezuela et du pétrole du Venezuela, aujourd'hui, l'Europe va se retrouver face à un vrai défi. Ce n'est pas le cas des États-Unis.
Ils vont peut-être trouver des solutions, ils recherchent des solutions.
Mais j'aimerais bien, moi, trouver quelles solutions on va trouver, puisqu'on est incapable de trouver des solutions.
On refera un débat,
on voit l'accélération sur la transition énergétique.
C'est
du
un
coup,
autre sujet, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, la transition énergétique, les solutions.
Il faudra répondre sur du court terme. Or, le problème aujourd'hui, c'est que là, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est sur du moyen terme.
Merci Patrick Karam, on reste ensemble évidemment, on se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Europe Soir Weekend. On va parler de Marine Le Pen qui est de retour sur la scène publique, à tout de suite.